Mathieu Ginestet et Maëva Huette, vous êtes candidat à l'élection départementale sur le canton Rodez-Aunay. Vous allez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter.
Oui, merci. Bonjour, donc Maëva Huette. Donc je suis actuellement donc en poste dans l'animation sociale, donc plus spécifiquement dans tout ce qui est gestion, coordination et mise en place de projets socio-éducatifs, culturels et sportifs. Donc j'ai 24 ans. J'ai fait mes études donc toute ma primaire, du collège à Aunay-Château, puis ensuite une fac de sport à Rodez où j'ai pu donc découvrir différentes associations et m'investir bénévolement. Donc lors des associations dans ma fac, mais aussi près des jeunes de mon quartier, donc aux Quatre Saisons et au Coste Rouge. Donc dans tout ce qui était découverte donc culturelle, mais aussi de l'aide aux devoirs.
Et Mathieu Ginestet, bonjour. Je suis agent général d'assurance, Castonnetois. J'habite dans le quartier des Costes Rouges. Je suis agent général d'assurance et je suis très investi dans le milieu associatif, que ce soit sur Aunay-le-Château ou Rodez. Je travaille beaucoup pour mon territoire, j'y suis très attaché. Je connais bien mon département de par mon métier, le sport aussi que je pratique, la musique qui est ma passion également, qui m'amène dans tous les territoires aveyronnais et qui me donne envie de défendre ce beau département que nous avons et de le mettre en avant et de faire plus pour lui. Donc c'est pour ça que je me candidate avec Maëva pour ces élections.
Et vous candidatez sous l'étiquette Agir.
Voilà, l'étiquette Agir, donc un mouvement qui n'existait pas depuis très longtemps, on va dire, en Aveyron. Donc c'est une étiquette du centre. Donc effectivement, on se présente sous la bannière Union des Centres, comme on aime à dire, que mettent en avant, on va dire, des personnes comme Jean-François Galliard, le président actuel du département, et Stéphane Mazard, notre député.
Alors quand je vous ai demandé quel était votre, parmi les centres d'intérêt, vous m'avez mis en premier lieu le développement de la politique de maintien à domicile des personnes âgées et également d'ailleurs des structures qui les accueillent. Quels sont vos projets dans ce domaine-là ?
Voilà, effectivement, on voulait mettre ce point en avant car on considère que c'est une thématique très importante pour l'avenir de notre département. Si on prend quelques chiffres, il y a eu des articles récents qui faisaient état du fait que un tiers de la population aveyronnaise a plus de 60 ans et que dans les 15 ans qui arrivent, donc ce pourcentage allait largement augmenter. Donc aujourd'hui, si on n'apporte pas des solutions dans ce domaine-là, le maintien à domicile des personnes âgées, je pense qu'on ratera quelque chose d'important pour le département. Il faut aussi considérer qu'aujourd'hui, on voit que le gouvernement va lancer la thématique justement de la dépendance, en essayant de réformer le milieu de la dépendance, pour limiter les personnes aussi qui seront en EHPAD dans le futur et augmenter la part de celles qui seront en maintien à domicile. Après, c'est vrai que si on demande, enfin, moi pour avoir une grand-mère du coup de 85 ans, si on demande aux personnes âgées ce qu'elles envisagent pour leur futur, peu de monde vous diront qu'ils veulent aller à l'EHPAD, beaucoup vous diront qu'ils veulent rester à domicile. Donc il faut trouver les moyens pour le faire, parce que c'est quand même complexe. Donc sur les moyens que nous voulons mettre en avant pour cette problématique-là, il y a plusieurs points déjà. Il faut savoir qu'on aura besoin d'étoffer déjà les services départementaux des référents personnes âgées au département. Vous avez donc plusieurs des équipes en fait de référents personnes âgées qui sont là pour aller voir donc les personnes âgées à leur domicile et mettre en place l'allocation personnalisée d'autonomie, donc l'APA, pour pouvoir leur permettre d'accéder à des aides. Cette équipe, on va dire, elle est dimensionnée correctement à l'heure actuelle, mais dans le futur, avec l'augmentation dont je parlais tout à l'heure des personnes de plus de 60 ans, il faudra la redimensionner et mettre des effectifs supplémentaires et des moyens supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faudra étoffer aussi, soutenir, on va dire, les aidants. Les aidants, c'est une problématique très importante. Il faut savoir que dans un couple de personnes âgées, par exemple, si vous avez quelqu'un qui soutient son conjoint qui est dépendant, ça prend beaucoup d'énergie. Et des fois, ça peut avoir des répercussions sur sa propre santé à lui. Aujourd'hui, au titre de l'APA, pour donner un exemple qui est représentatif et parlant, au titre de l'APA, un bénéficiaire peut avoir droit à 16 heures d'aide à domicile, on va dire, pour suppléer finalement l'aidant et permettre à l'aidant de s'évader un petit peu. 16 heures par mois. Donc ça veut dire une petite demi-journée par semaine pour sortir de ce quotidien qui peut être lourd à porter. Donc c'est un exemple de choses qu'il faudra augmenter pour faire en sorte que les aidants soient soutenus psychologiquement et qu'ils puissent soutenir encore mieux leurs conjoints dans les
cas
comme ça.
C'est un financement qui est donné en grande partie par l'État, si je ne me trompe pas.
Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup aussi sur la nouvelle réforme de la dépendance que porte l'État en ce moment, comme je vous disais à l'instant. Et on espère qu'ils nous donneront les moyens de notre politique départementale pour aider toutes ces personnes-là. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'il faut valoriser les métiers d'aide à domicile, donc avec les prestataires de services. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on retrouve aussi chez les prestataires de services, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement. Ce sont des métiers difficiles, avec des horaires très délicats pour gérer sa situation personnelle, sa famille. Et donc derrière, il y a une valorisation salariale qu'il faudra mettre en place pour attirer le monde dans ce secteur-là, parce qu'on aura besoin d'eux pour aider nos aînés dans le futur. Donc voilà les points essentiels, on va dire, sur lesquels il faut travailler pour développer cette thématique.
Alors, on va passer des anciens aux jeunes, puisque je lis dans vos documents, pour augmenter et diversifier la pratique du sport en extérieur, la création d'un, ça doit être de l'occitan, street workout sur la butte Saint-Mesmes.
Oui. Exactement, oui. Donc, surtout avec le Covid, quoi, avec la période actuelle qu'on a un peu passée, donc développer ces pratiques extérieures, surtout qu'en fait, le street workout, c'est des modules en fait qui sont posés, mis à disposition, et c'est pour de la gymnastique, donc la gymnastique de maintien, donc de maintien santé, de la prévention aussi à la santé, et surtout donc qui allie donc gymnastique active, fitness et du coup, on va dire pratiques sportives, soit en groupe, soit personnel, tout seul. Et donc dans certaines villes, ça marche plutôt pas mal, ça marche même bien. Et il y a des associations qui se créent, voilà, de street workout, donc des assos qui se développent et après donc des mentors.
C'est plus près du tachi.
Alors un exemple aussi, c'est le parcours, ce qu'on appelle oui. Le parcours. On voit de plus en plus à la télé des jeunes qui participent à des émissions ou qui font des vidéos sur YouTube et tout ça. Donc le parcours, c'est l'art du déplacement. Et donc ces structures permettent de faire autant la gymnastique, la musculation que le parcours. Et ça peut attirer notre jeunesse.
Ça peut aussi remplir les services de traumatologie.
On va éviter.
Après, il faudra l'encadrer.
Après, les associations. Il y a de l'encadrement. Et justement, ce qui s'est produit dans diverses villes, c'est cet encadrement-là. Et des fois, des associations qui sont montées avec vraiment des mentors, donc des mentors qui géraient ces structures-là.
Et vous l'imaginez dans l'ensemble du département, je suppose?
Alors, dans l'ensemble du département, alors ça, moi, il n'y a pas de souci parce que je suis très, donc, très fervente défenseuse du sport en extérieur. Mais bon, déjà, on va s'attaquer à notre canton, à notre commune. Donc, travailler main dans la main aussi avec notre commune pour mettre ça en place.
Alors, vous parlez aussi des investissements réguliers, ne le sont-ils pas déjà, sur le collège. Le collège, c'est bien le département. Et pour la sécurité et le bien-être. La sécurité, il y a des problèmes de sécurité au collège de Donnay?
Non, il n'y a pas de problème de sécurité. Heureusement, nous sommes dans une belle ville, un beau canton, où on n'est pas concerné réellement par tous ces problèmes. Ceci dit, il ne faut pas se laisser aller. Hein. Donc il faut toujours, l'idée de cet investissement, finalement, c'est de toujours faire attention à ce que les équipements qui sont mis à disposition de nos enfants soient en bon état, qu'il y ait des réfections régulières qui soient faites pour que tout le monde se sente bien à l'intérieur du collège. Nos enfants, c'est notre avenir, donc il faut effectivement penser à eux et investir régulièrement. Donc c'est dans ce sens-là.
Vous avez décidé d'investissement
Non, c'est surtout de la rénovation. C'est surtout de la rénovation de bâtiments, comme je vous disais. Les équipements existants sont anciens. Alors il y a déjà plein de choses qui sont faites, hein, heureusement. Hein. La commune et le département font déjà des choses pour le collège. Il faut juste continuer et faire toujours aussi bien.
Une vraie stratégie touristique, faire exister Onet-le-Château sur la carte du tourisme en Aveyron.
Une belle thématique. On sait que le tourisme est très important pour notre département rural, mais qui attire beaucoup de monde et de plus en plus de monde avec la situation actuelle. Donc ça, c'est un bénéfice pour notre département et notre économie. Et c'est important pour nos commerçants aussi, puisque nos commerçants ont besoin de travailler avec toute la période qu'ils ont traversée. Donc si on apporte du tourisme et des touristes dans notre canton, forcément, ça va être un plus pour eux. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si on regarde les revues touristiques du département, Onet-le-Château n'apparaît nulle part. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens que nous disons qu'il faut une vraie stratégie touristique. Il faut mettre en avant les atouts de notre canton.
Quels sont-ils?
Le plus, on va dire, visible et auquel tout le monde va penser, je pense, c'est le château d'Onet Village, par exemple. Ce château, il faut le rénover. Alors, il y a des choses qui vont être faites, qui sont déjà prévues dans les budgets de la commune, mais il faut continuer ce travail et le mettre en avant, surtout sur une sorte de guide touristique ou un parcours touristique qui ferait passer les gens sur les points importants de notre canton et qui mettrait en avant toutes ces belles choses.
Enfin, on a l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est une nécessité contemporaine, je pense. Hein. Et vous avez un nota en gras, il est primordial de prémettre à toute la population d'apprendre à se servir des outils informatiques et d'Internet. Je pense que c'est une problématique intéressante et vous faites comment?
Donc effectivement, c'est une problématique importante à traiter parce qu'on voit qu'on a différentes populations qui sont éloignées de tout ça. On peut avoir des personnes âgées qui n'ont jamais eu l'habitude, on va dire, de d'utiliser ces instruments, d'aller sur Internet. Et on peut avoir aussi une population qui n'a pas les moyens financiers d'acquérir les biens matériels pour pouvoir aller sur Internet, se connecter et faire les démarches nécessaires. Donc on en a des exemples flagrants, par exemple avec le Covid, la vaccination. Aujourd'hui, il faut aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous donc au centre de vaccination. Donc là, si les gens n'ont pas l'habitude de faire, c'est compliqué. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué hein, en fait. Hein, le département l'a déjà fait, il faut juste le faire de plus en plus et accentuer la politique de ce côté-là. C'est des appels d'offres auprès d'associations, on va dire, qui travaillent dans ce domaine. J'en connais plusieurs sur Onet-le-Château. Qui vont aller rencontrer le public, alors il y en a certaines c'est avec les personnes âgées directement, et qui vont leur mettre sous la main un instrument numérique et qui vont leur apprendre à gérer cet instrument numérique, aller sur internet, aller visiter
les adresses mail. On leur prêtera à leur domicile, on les invitera à venir.
Il peut y avoir du travail à domicile. Ouais, il peut y avoir du travail à domicile, effectivement, parce que des fois les personnes âgées veulent pas forcément se regrouper, ils préfèrent le travail individualisé. Ça peut être aussi des ateliers communs qui peuvent être organisés aussi au CCAS, avec le CCAS. Ça se fait dans plein d'autres communes. Donc voilà, c'est des travails qui sont simples. Il faut s'appuyer finalement sur le tissu associatif qui existe déjà, qui sait faire, qui a déjà fait. Et nous, juste, il faut qu'on leur donne les moyens d'agir sur notre territoire.
Alors, le dernier sujet, c'est sur le désenclavement du département. Que vous envisagez du point de vue des infrastructures ferroviaires? On en a beaucoup détruit, si je peux me permettre, routière et numérique. Vous évoquez la Nationale 88, mais vous évoquez donc le routière et numérique. Quel est votre programme, d'une certaine manière, pour désenclaver ce département?
Donc effectivement, le désenclavement est très important. Alors nous, on le voit surtout, ce point de désenclavement, sur l'aspect économique. Si on a un département et un canton, puisque nous, on est traversé par la RN 88, donc ça a une importance toute particulière pour nous, si on est bien desservi, que ce soit par les axes routiers, ferroviaires, et donc si on a bien la fibre partout, ça permet à de nouvelles entreprises de venir sur notre canton. Et nous, ça nous permettra du coup de pérenniser, de créer de l'emploi. Donc c'est pour ça que notre point de vue sur le désenclavement est celui-ci, c'est le point de vue économique vraiment. Donc le dossier de la RN 88, on sait que c'est un dossier compliqué, qui traîne en longueur. Il y a des choses qui se décantent de temps en temps, mais il faudra avancer plus vite, il faudra être persuasif auprès de l'État et de tous les interlocuteurs pour faire avancer ce dossier. Et un point important, juste pour finir, pour profiter en tout cas de ce qui va être fait sur le travail des routes au département, Maëva va vous en faire état, c'est la mobilité douce.
Ouais, la mobilité douce, donc du coup avec la sécurisation donc des pistes, donc des voies douces qui sont pas assez sécurisées, donc vraiment délimitées, donc bien délimitées, pas seulement une ligne droite sur le côté, mais vraiment un secteur quoi, vraiment séparé pour que.
Est-ce que ça suppose des élargissements?
Ça suppose des élargissements, oui.
À refaire des routes, autant les refaire donc comme il faut, et maintenant le futur va vers la mobilité douce, donc il faut intégrer des pistes cyclables sécurisées.
Mathieu Ginesté et Maëva Huet, vous êtes candidats sur le canton Rodez-Onet à l'élection départementale. Je vous remercie.
Merci.